Actu SF, les podcasts.
De monsieur Rosinski, on parlera un petit peu, alors on a commencé le débat avant, hein, c'est pour ça qu'on était au milieu, des racines ou non de sa propre mythologie un petit peu autour de Thorgal. Il est accompagné de David Brie, coup de cœur des Imaginales, auteur notamment du Garçon et la Ville, et puis de Que passe l'hiver, donc qui lui aussi dans Que passe l'hiver utilise la mythologie nordique. Donc l'idée c'est de voir un petit peu comment est-ce que chacun fait à partir du même matériau. Et puis on a avec lui Aurélie Wellerstein. On peut saluer Mère Mort, La Mort du Temps ou bien encore Le Roi des Fauves. Et puis dans Le Roi des Fauves, là aussi, il y a un petit peu de mythologie nordique avec les berserkers, donc on pourra en parler. Et nous sommes accompagnés de Laurent Vissière, historien français, spécialiste du Moyen-Âge tardif, hein, vous me corrigez si je dis des bêtises, maître de conférences en histoire médiévale de l'Université de Paris 4, secrétaire adjoint de la Société de l'Histoire de France, membre du conseil d'administration de la Société française d'archéologie. Et donc l'idée, c'est que Laurent Vissière puisse nous donner un petit peu le point de vue de l'historien, tout du moins, sur les mythologies. Première question, juste sur le nom de Thorgal, vous me disiez les racines.
Thorgal porte le nom de deux divinités vikings, Thor, évidemment, le dieu de l'orage, et Aegir, le géant de la mer. Donc c'est à la fois le fils d'une divinité marine et il a un rapport avec les divinités du ciel. Mais évidemment, c'est purement des noms imaginaires, à ma connaissance. Il aurait dû s'appeler Ragnar, je crois. Thorgal.
Non, prenez ce.
Attendez, il faut réparer.
Voici le micro de Thor, ça
sera
mieux.
Oui, Ragnar, au début.
Oui.
Oui, c'est vrai, parce que je viens d'un pays où la bande dessinée n'existait pas. Et la saga des Vikings aussi n'est pas tellement... Les Vikings, ça n'est pas très, très tenté, parce qu'on était les Vikings dans certains sorts. Les Polonais, c'est les pays baltes, comme l'autre pays à côté, les pays voisins, comme... tout ce d'Estonie, Lettonie. Donc, on était là, mais si on voit la culture, les archives, les vestiges de Biskupin, par exemple, c'était le village des Vikings. Il a été reconstitué entièrement. Mais moi, j'ai pensé de l'image tout d'abord, mais. Quand Jean m'a proposé cette première scénariste sérieux que j'ai pris pour scénariste occidental, sérieux, donc c'est nécessairement c'est le meilleur au monde. Alors il m'a proposé le premier truc, évidemment Bach Ragnar. J'ai dit, répondu, quand c'est mon premier bande dessinée, c'était Journal des Vaillants, là où il y avait les sagas de Ragnar. Par cet Argentin, c'était Coelho qui a dessiné. Et parce que la seule bande dessinée que j'ai connue, je ne connaissais pas ni Tintin, ni Spirou, ni d'autres choses. C'était, parce que le journal Vaillant était édité par les partis communistes français à l'époque, et c'est grâce à ça que j'avais un accès difficile et très limité. Et quand même, je me suis débrouillé à. J'étais petit débrouillard, petit Tom Sawyer, comme on m'appelait. Je voguais un peu au Peter Pan, avec ma liberté partout. Je me déplaçais de l'époque, des pays, si les frontières n'existaient pas. C'est pour ça que j'ai commencé à faire cette histoire, mais à la condition qu'il change Ragnar et qu'il trouve l'autre truc. J'ai tout papier, la feuille de papier, où il y avait les dizaines de qu'il a essayé de trouver un mot, un nom pour notre héros futur. On n'a pas pensé que ça serait une langue saga, parce que c'était dessiné tout d'abord, c'était l'histoire courte, l'histoire pour les pour le journal Tintin. Parce que c'était édité chapitre par chapitre et il y avait 30 pages à peine.
Et qu'est-ce qu'il avait de... Comment vous l'avez travaillé? C'est un viking à la base, en tout cas il est recueilli par des vikings. Comment est-ce que vous avez travaillé visuellement pour le situer à cette époque?
Vous savez, je fermais les yeux et je m'imaginais tout ça.
C'est vrai.
C'est ça, et on est dans l'imaginal. Mm-hmm. Et donc, vous savez tous, je pense, que c'est quoi l'imaginal. C'est quoi que ça vient vraiment, les choses. Mais seulement, il nous manque des moyens techniques. Comment réaliser nos rêves? Parfois, on rêve sur quelque chose de magnifique, fantastique, le paysage. Ça, tout ça se passe, ou les personnes que vous rencontrez, mais il n'y avait pas de moyen de les visualiser. On ne peut pas prendre les photos, même avec ce téléphone portable. On n'arrive pas à le faire. Donc, c'est ça, le seul moyen, c'est de fermer les yeux et essayer. Essayer s'imaginer. Et puis après, recopier ça d'après les moyens qu'on a. Et ça, j'ai... Mais pour moi, la question de Thorgal, de Saga des Vikings, c'était l'autre raison. Mm-hmm. Pour moi, c'était absolument égal. Je n'étais pas du tout ma fan de cette époque, Non, c'était tout simplement pour trouver les moyens qui étaient sans précédent, le moyen de travailler. Comment on peut travailler à quelqu'un de dessinateur et de l'autre planète et scénariste de l'autre planète. Lui, il était à Bruxelles, et complètement, on était coupé des mondes par le mur de Berlin, existait encore. Il n'y avait pas question de Schengen ou l'autre, et l'autre trésor de notre époque. Il y avait, moi, j'étais coupé de monde à chaque fois. Il n'y avait pas de... Vous imaginez qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Il faut des standardistes, il faut téléphoner, attendre au moins 3 heures pour la connexion, pour qu'il connecte avec Bruxelles.
D'accord.
On ne croyait pas que c'était... C'est il n'y a pas longtemps. Hein? Encore. Donc, j'écrivais les lettres. Et c'est peut-être par cette écriture que j'ai appris français. Parce que Jean, 20 ans après, il m'a dit, Grégoire, tu n'as fait aucun progrès en français. Et probablement, quand Jean a dit, il avait certainement raison. Et puis, c'était le seul moyen d'être collaboré. C'est pourquoi j'ai dit Peter Pan. Et parce qu'il a, on s'affichait de l'espace-temps, de frontières, on survolait dans ce... entre Bruxelles et dans l'esprit d'abord et puis après physiquement. On s'en fichait parce qu'il n'y a personne qui a pensé qu'un artiste, un illustrateur peut travailler avec un écrivain et sans complètement et ignorer les frontières qui étaient dures. Et voilà, hein. Il y avait la censure, il y avait toutes les barrages de la frontière, l'Allemagne de l'Est. Stasi et autre chose, mais et moi je m'en fichais complètement. On m'a passé comme si je suis invisible. Je ne sais pas, je sais toujours pas comment ça s'est passé. Je n'ai pas appartenu à aucun parti, je n'ai pas bénéficié de privilèges quand il y a les camarades. Non, c'était... Mais la condition que c'est qu'on a commencé notre collaboration par élimination d'abord. Cette histoire, c'est devenu... C'est par éliminer tout ce qui est politique, tout ce qui est érotique, tout ce qui est bizarre, mais c'est comme ça. Tout ce qui est violence gratuite, inutile complètement. Ça est devenu maintenant tellement quotidienne, cette violence et sexe et tout, que c'est monotone, c'est ennuyant. Il n'y a rien de nouveau. C'est toujours le même Kama Sutra dans la scène. C'est complètement inutile. Il y a parfois une belle histoire et on ajoute ça parce que la public aime ça. C'est qui décide? C'est l'éditeur qui dit que la public aime ça. Mais la preuve, Thorgal, qu'il n'y a pas c'est tout ça. Il n'y avait pas, en tout cas, dans certains moments, quand Mais c'est vrai que le public n'aimait pas justement ça, cette sexe-violence, des trucs complètement inutiles. Il se concentrait sur l'histoire. Mais là aussi, c'est grâce à cette élimination, on a réussi à collaborer sans Jacques, aucun problème. J'ai envoyé mes planches, c'est pour ça que je déteste cette allergie que la poste. Ça restait de cette époque-là parce que qu'est-ce que j'ai vécu chaque fois quand j'ai confié à la poste mon travail mensuel. Parce que j'étais chapitre par chapitre, j'envoyais d'abord sur un journal Tintin. Mais c'est quand même, ça a toujours bien marché. On n'a jamais, jamais dérapage, jamais problème. La poste, toujours ponctuel, jamais c'est des problèmes avec le temps prévu. Et grâce à ça, bon, là, ça n'est pas, c'est quoi? C'est l'amour, émotion humaine, universelle. Il n'y a aucun régime ne pouvait pas avoir d'avoir des problèmes avec ça. N'est-ce pas? Il m'a laissé faire. Parce que je pense que j'étais invisible pour la censure, invisible pour les camarades, pour le truc, pour tous ces régimes, par la douane. J'étais Peter Pan.
On va revenir sur ce personnage de
Voilà,
Torgal, mais...
c'est ça la raison de naissance de saga des Vikings, parce que c'était tellement un thème est tellement large et tellement bon, on peut tout mettre dedans et en même temps rien. Il n'y avait rien qui pouvait gêner de ce qui se soit.
Mais c'est
ouais,
quand même pas un héros communiste.
Pardon?
C'est quand même pas un héros communiste, Torgal, c'est quand même l'individualisme bourgeois.
Vous savez, le bourgeois, ça dépend de qu'est-ce qu'on pense de ce terme. Et qu'est-ce qu'on pense par les non-communistes. Il y avait tellement de mythes autour de ça. Et bourgeois, et communiste, et fasciste, et truc. On peut toujours accrocher, mettre l'étiquette à quelqu'un. Et si on essaye de justifier ça, les problèmes commencent à ce moment-là.
David, Aurélie, comment est-ce que vous avez utilisé la mythologie nordique, les Vikings? Qu'est-ce qui vous a intéressé pour écrire dessus?
Est-ce que...
Non,
on va y arriver. Oui, alors pour l'anecdote, c'est assez marrant parce que j'ai décidé d'utiliser la mythologie nordique dans Le Roi des Fauves grâce aux Imaginales. J'étais partie à la base, la question, la problématique pour ce roman, c'était qu'est-ce qui se passerait si la métamorphose en loup-garou, c'était pas une métamorphose instantanée, mais une métamorphose lente. C'est-à-dire que la personne ait vraiment le temps de se sentir partir. Psychiquement et physiquement, c'était ça qui m'intéressait. Puis donc j'étais partie sur cette idée-là, avec le loup-garou, qui est quand même une figure assez, assez classique. Et je viens ici en festivalière sur les Imaginales et j'assiste à une conférence de Régis Boyer sur la mythologie nordique. Et alors là, le coup de cœur, il en parle merveilleusement bien et il parle des berserks. Et là, je me dis, mais c'est trop génial, en fait, je vais faire ça. Je vais faire, ce sera beaucoup plus original. Au lieu de faire ma métamorphose lente en loup-garou, je vais faire une métamorphose lente en berserk. Alors le berserk, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une figure de la mythologie nordique, c'était des guerriers qui étaient saisis d'une sorte de transe où ils devenaient absolument insensibles aux coups, ils pouvaient ravager leurs ennemis en proie à cette transe guerrière. Et en plus, sans doute les gens imaginaient qu'ils se transformaient en animaux parce qu'ils portaient, sans peut-être dire des tas de bêtises et qu'après vous me corrigerez, mais voilà, des fourrures. Il y avait notamment le guerrier ours, le guerrier loup et le guerrier sanglier qui étaient un peu isolés, enfin différenciés parmi les berserks. Et voilà, on peut imaginer que c'était peut-être parce qu'ils portaient des fourrures qu'on a pu penser qu'ils se transformaient eux en animaux, en loups. loup, en ours, en sanglier, et qu'en fin de compte, c'était juste de la fourrure. Après, dans l'étymologie du berserk, il y a aussi le côté, justement, nu, hein, du guerrier sans chemise, sans armure, qui va au combat torse nu. Donc ça, c'est... En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de Régis Boyer il y a longtemps. Et avec le côté... moi, ce qui m'intéressait aussi dans ça, c'était le côté totémique animal. C'est-à-dire qu'il y avait... je prononce mal, mais c'est le hammer. C'est cet esprit animal qui envahit l'homme. Et c'est ça que j'ai bossé avec le Roi des Fauves, en fait. Parce que dans le Roi des Fauves, donc, c'est trois jeunes qui sont... condamnés à ingérer un parasite qui va les transformer en berserk. Et donc ils vont se changer en animal, en leur animal totem. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est l'animal dans lequel ils vont se transformer. Ils vont le découvrir au fur et à mesure du roman. C'est donc, comme je disais au début, une métamorphose qui dure une semaine. Donc ils ont vraiment le temps de voir la métamorphose physique, les poils, les griffes, les sabots, la corne qui apparaît, les crocs, etc. Et aussi la métamorphose psychique, parce que c'est pas qu'une métamorphose en animal, c'est du berserk. Donc il y a le côté enragé, il y a vraiment les désirs de sang qui montent en eux, les pulsions carnassières, et ils se disent, mais on va s'entre-dévorer. C'est trois amis d'enfance, ils se disent, on va s'entre-dévorer. Il faut qu'on trouve une solution, il faut absolument que là, on échappe à cette malédiction. Et donc ils ont comme espoir de rejoindre le roi des fauves pour qui les aide en fait à contrecarrer cette métamorphose qui les envahit. Et ça s'appelle le roi des fauves. On pourrait imaginer que c'est une histoire de savane et tout ça avec le lion, mais pas du tout. C'est vraiment les berserks, c'est les guerriers fauves. Les berserks, on appelle ça les guerriers fauves. Donc c'est pour ça que ça s'appelle, que j'ai choisi ce titre-là. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour.
Ce qui est intéressant dans le roi des fauves, c'est que c'est aussi presque un récit initiatique ouais. par derrière. Mmh. C'est-à-dire que cette transformation en berserk, elle est aussi une forme de passage presque à l'âge adulte.
Ouais, on peut le lire comme ça, effectivement. C'est des jeunes, hein, ils ont 17 ans et ils sont pris dans cette chose qui les dépasse complètement. Enfin, on peut après avoir une lecture symbolique sur les hormones, le changement, etc. De l'adolescence au passage adulte. Et il y a toute cette quête initiatique aussi dans... de la part notamment du personnage principal. Ils vont tous réagir très différemment. C'est trois destins très différents. Ils vont faire trois choix très différents les uns des autres.
Je me tourne vers vous, Laurent Vissière. Est-ce que on retrouve dans la mythologie nordique ce passage à l'âge adulte pour les berserks?
Là, c'est vraiment la colle. Le passage à l'âge adulte du berserk, là, j'ai jamais entendu parler. Par contre, on retrouve ça ailleurs. Il y a deux éléments, comme vous disiez très bien. Il y a le totem, l'identification à l'animal totem, mais on trouve ça dans toutes les cultures. Il y a les guerriers jaguars chez les Aztèques, les hommes léopards en Afrique, et puis la transe guerrière qui peut être activée par des substances, genre de l'alcool, des drogues ou par pure autosuggestion, et qu'on trouve là encore dans toutes les sociétés un peu primitives. On a ça chez les Gaulois, on a ça chez les Vikings, on a ça chez les Germains. Et à ce moment-là, l'idée, c'est que l'on va au combat nu. On n'a plus besoin d'une armure qui nous rappelle notre condition d'homme, relativement civilisée, un petit peu en tout cas technique. Et on se rapproche de l'animal, on ne craint plus les blessures et on est animé par une soif de sang, on ne sent plus les blessures, on est là pour tuer, pour déchirer. Donc la forme la plus primitive en fait du combat et de l'agression. Et c'est tout à fait ça chez les Vikings en tout cas.
David, même question pour Que passe l'hiver? Qu'est-ce que passe l'hiver emprunte aux mythologies nordiques?
C'est une ambiance, moi ce que j'ai... beaucoup aimé dans la mythologie nordique, c'est tout l'aspect dramatique, c'est ces dieux qui se battent entre eux, qui se détestent. Je trouve que mais je crois que c'est aussi le rôle de la mythologie, c'est d'avoir vraiment ces enjeux qui sont au final très très humains et qui sont très forts, qui sont décuplés par le pouvoir, qui sont décuplés par l'âge de ces dieux, qui sont décuplés par leur quête. C'est Loki qui déteste son frère, c'est l'arbre monde Yggdrasil, c'est le loup Fenrir. Et je crois qu'on l'Europe, mais c'est pareil, je pense, dans tous les continents, on pourra en parler. Je crois qu'il y a un mélange juste génial de toutes les mythologies. On a la mythologie grecque, bien sûr, on a la mythologie romaine, qui sont très proches, on le sait, et il y a la mythologie nordique. Et tout ça forme une sorte de magma commun dans lequel nous, auteurs ou dessinateurs, on vient piocher. Et c'est là où je trouve ça super intéressant, ce mélange des genres. Torgal, moi je le disais quand j'étais gamin, donc ça remonte un peu. Mais Torgal, c'est une interprétation, comme M. Rosinski le disait, il imagine, Torgal, on imagine ces choses-là à partir de choses qu'on a lues, apprises, entendues, imaginées. Et c'est comme si un petit peu on reconstruisait les mythes à partir de matières premières qu'on a. Et moi, je trouve ça juste magique. Moi, il y a une petite anecdote, je ne sais pas si je l'ai déjà dit à Aurélie, quand j'ai vu la couverture du Roi des Fauves, j'étais juste dégoûté parce que c'était la couverture que j'avais voulu pour Que passe l'hiver. Mon roman n'était pas encore sorti. J'avais pas ma propre couverture. Et je me suis dit, mais merde, c'est dégueulasse, c'est ma couverture. Mais c'est juste pour illustrer le fait que. Pareil, elle a cette image du roi cornu qui a 10 000 milieux de la mienne. Et moi, je trouve ça magique, le fait qu'on puise dans ce vivier de mythologie et qu'on invente, qu'on réinvente, qu'on interprète des histoires, qu'on y rajoute tous nos sujets. Le roi des fauves, ça n'a rien à voir avec Que passe l'hiver, qui est une histoire bien plus intérieure, qui est une histoire qui n'est pas une histoire de transformation, même si ça raconte aussi un passage à l'âge adulte. Mais il n'y a pas de berserker, c'est des gens qui meurent, des gens qui sont assassinés. Et il y a le roi de l'hiver qui est au-dessus de tout ça, qui est du coup une figure très pacifique et très onirique, vraiment un milieu du roi des fauves. Et du coup, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'on pioche de la mythologie? Je crois qu'on pioche des images, comme le roi cornu, comme la neige, le froid, pour les mythologies nordiques. On pioche de la tension dramatique. Et un petit détail, mais je pense que ça rajoute juste aux ambiances, c'est les noms. Rien que le nom de Yggdrasil, moi, c'est un truc qui me fait rêver, et je suis sûr que je ne suis pas le seul. C'est des noms qui ont comme une portée un peu magique. C'est des noms qui touchent, je pense, à l'inconscient, à des choses qui nous font rêver gamin et qui restent. Et c'est très, très évocateur. Et c'est ce qui, je crois, tous nous permet d'inventer des histoires, mais aussi de les partager. Parce que si Yggdrasil, ça me parle, ou Fenrir, ou Odin, ou Thor, je crois que ça parle aussi au lecteur. Et c'est une sorte d'échange qui n'est pas forcément que dans l'écrit, mais qui est aussi dans l'intention qu'on y met, dans la musique des mots, dans la musique des noms.
Est-ce que c'était pareil pour vous, pour Torgal, c'est-à-dire Yggdrasil, Odin, Bifrost, c'est des choses que vous avez piochées dans vos lectures ou dans vos images, ou vous avez vraiment tout réinterprété?
Vous savez, c'est déjà de longues histoires, cette saga. J'avais différentes périodes. Au début, on ne savait pas, ni mon scénariste, ni moi, on savait pas que ce soit de l'histoire très longue. Et qu'est-ce que c'est la reconstruction de là où c'est permis, là où c'était possible, la reconstruction de vie des Vikings, avec vrais éléments, vraies scénographies, vraies cabanes, vrais villages, vrais vêtements, où c'est la liberté absolument primordiale. C'est le plus important, c'est la liberté des pensées. Et moi, on n'était pas toujours dans la même ligne avec mon scénariste. Mais moi, j'ai pris le scénario et la dernière chose que je voulais, c'est que le scénariste soit avec moi. Il fait les conseils, on s'inspire de mes dessins. Ce qui est très souvent. Moi, je déteste ça. Moi, je dis, voilà, tu fais ton voyage autour du monde pendant que je travaille. Et moi, je suis responsable de tout. Et puis, je n'ai pas une immense documentation, mais je ne profite pas de ça. Je lis pendant très temps, mais pas pendant quand je travaille. Et je préfère vraiment, comme je disais, d'être guidé par l'imagination. Et c'est tout. Mais quoi dire encore? Parce que il n'y a pas les dieux nordiques, il n'y a pas de ce truc-là, il n'y a pas de vestiges même. C'est les cabanes, c'est ce qui est resté des dracars anciens, les dracars d'Osberg à musée. C'est tout ce qui reste, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas de messages écrits. C'est pas que si quelqu'un vraiment a déchiffré toutes les écritures des runiques sur les pierres. Et puis, j'ai décidé finalement que ça commence. Les Vikings seront comme je les dessine. C'est tout. Et puis, quand je dessine un personnage, ce personnage commence de fonctionner, exister, de vivre, etc. Quand je dessine une cabane, même s'il n'a rien à voir avec ce que, avec les découvertes que j'ai appris après j'ai découvert des documentations, soit de toutes ces reconstructions en 3D à l'intérieur et l'extérieur de ce village de cabane, mais ce n'est pas le mien. Je préfère le truc n'importe quoi, rustique, mais il faut que ce soit fonctionnel, que ce soit que ça joue avec les personnages, que l'acteur qui se sent bien dans cet environnement, et c'est tout, c'est essentiel. Je lui donne jouer, je le laisse jouer, je lui donne la liberté, et il faut, eux, ils me donnent la liberté aussi. C'est la recherche de liberté tout le temps. Et ce n'est pas la reconstruction de parce qu'on m'a dit, une fois j'étais invité à l'université comme parmi les spécialistes de l'histoire. Non, c'était à Lausanne, et en Suisse. Et puis on m'a demandé l'un des trucs sur la vie des Vikings. Mais j'ai dit que je ne sais rien du tout. je les invente. Tout ce que je dessine, c'est inventé. Même si je préfère quand même si j'ai plein de documentation, mais je préfère de ne pas profiter de cette documentation, de dessiner un épée de Torgal comme je trouve dans les musées, parce que ce n'est pas celle-là qu'il l'a utilisé, n'est-ce pas? Et les dracars, les trucs, tous ces décors. Mais ça commence à fonctionner d'être comme moi je dessine. De ce moment-là. Mais je lui ai répondu aussi que si vous voulez. Par contre, je ne connais rien sur la vie des Vikings, la mythologie nordique, etc. Mais si vous voulez vraiment avoir des contacts avec vrais Vikings, vous allez toucher moi. C'est moi. Moi, je suis Viking. Je deviens Viking quand je avec ma hache, j'essaie de construire mon dracar. C'est tout.
Vous avez essayé de construire un dracar?
Pardon?
Vous avez essayé de construire un dracar?
Ah non, c'est micro. Pardon. Non, je n'ai jamais fait cette ambition-là. Non. Mais par contre, j'ai les petites maquettes. J'adorais les petites maquettes. C'est pour ça, ma présence. C'est pour ça, à Épinal, pour moi, je visitais, je passais toute la journée dans le musée. Là, et ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon enfance. C'est aussi ta création des mythologies nordiques. C'est un rêve d'enfance. Ce n'est pas sérieux pour moi, c'est un jeu, c'est un plaisir, et c'est à qui j'invite les autres, mes lecteurs, et je vois que ça fonctionne.
Laurent, votre regard, vous, d'historien, sur Torgal, pas forcément sur la véracité, mais sur le côté mythologie nordique?
Eh bien, en fait, comme Grégor l'a dit, c'est une reconstruction, mais il faut bien voir que dans la mythologie, on a longtemps vécu sur une fossilisation de la mythologie. À la fin de l'Antiquité, les Grecs et les Romains se mettent à écrire leurs mythes pour essayer d'en garder la trace, parce qu'ils commencent à plus y croire du tout. Il y a toute une série de mythographes, et on a exactement la même chose qui va se passer dans le monde germanique. Le monde germanique n'a pas gardé de mythes, puisqu'ils ont été christianisés assez tôt, avant l'écriture en réalité, et c'est seulement en Islande, au XIIe, XIIIe siècle, que des gens comme Snorri, un certain nombre de clercs, qui sont tous des chrétiens et tout à fait convaincus, voient tout à coup ce patrimoine légendaire disparaître et vont l'écrire. C'est la question de l'Edda, d'un certain nombre de sagas et tout ça. Et donc, nous, depuis, nous vivons sur cette mythologie fossilisée, puisque ce n'est pas les gens qui y croyaient qui ont écrit cette mythologie, c'est ceux qui n'y croyaient plus, mais qui aimaient encore ces histoires. Et ce qui est extraordinaire au XXe siècle, c'est que l'on se remet à faire vivre la mythologie. Torgal, c'est une mythologie vivante. C'est, si on essaye de voir si c'est vraiment ce qui se passe avec Thor et Loki, on va être déçu. De toute façon, Torgal est curieusement un personnage complètement non religieux. Ça, c'est peut-être ses racines communistes. Mais il fréquente le monde des dieux, mais on ne le voit jamais faire un geste religieux. Ça lui échappe complètement, cette dimension-là. Il honore les dieux, il y craint, il va dans l'autre monde, il rencontre la déesse Frigg, enfin, il en rencontre un certain nombre, mais Jolan, c'est encore pire. Mais ils ne sont pas religieux pourtant. Par contre, on a une mythologie qui est à nouveau vivante. Et je pense, vous m'arrêterez, mais je pense que dans l'Heroic Fantasy, c'est aussi ça, c'est rendre vivant une mythologie qui était en fait complètement fossilisée, je dirais pas sclérosée, fossilisée, parce qu'on n'en écrivait plus. Et là, on retrouve tout un fond avec des personnages, des caractères, des situations. On les remet en situation, on imagine ce qu'ils feraient, ce qui est quand même la base de la mythologie à la base, enfin primitivement, puisque la mythologie est totalement incohérente. De toute façon, les mythes se chevauchent, s'entrechoquent, et il y a des versions différentes, parce que simplement elle n'était pas écrite, c'était oral, c'était une construction permanente.
Ah ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Je crois que la force de la mythologie, ce qui est impressionnant, c'est que ce sont des histoires qui datent de 1000, 2000, 3000 ans, et aujourd'hui on en parle encore. Mais parce que je crois que derrière, alors je suis pas un spécialiste du tout, mais je suis convaincu que derrière ça parle de vie, ça parle de mort, ça parle d'amour. Et si ces histoires perdurent, c'est qu'elles sont profondément humaines, elles tentent de répondre à des questions qui sont pourquoi est-ce qu'on aime, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas, pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on meurt, pourquoi est-ce que la vie parfois est injuste. Et ce sont des thèmes qui sont éminemment romanesques, qui sont aussi éminemment évocateurs. Quand on écrit de la fantasy, on a trois gros choix. C'est soit inventer un monde avec rien d'existant, c'est reprendre un monde existant, et puis c'est essayer de faire un petit peu des deux. L'avantage de ces mythologies, c'est qu'elles sont tellement évocatrices qu'elles facilitent, je crois, l'accès à toutes ces émotions-là, à toutes ces craintes-là, à tous ces espoirs-là aussi. La mythologie, c'est aussi quelque chose qui est aussi beaucoup dans l'espoir, et du coup, en effet, on les fait vivre parce qu'on les utilise, on les partage. C'est un mode de communication, la mythologie. C'est en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire dans Que passe l'hiver. Il y a juste une petite anecdote. À un moment, Stig, qui est un jeune seigneur au pied beau qui se transforme en corbeau, qui parle de son père. Son père, lui, se transforme en ours. Et l'ours, c'est la force. C'est la force qui est des fois un peu brute et qui est violente. Et à un moment, dans le roman, Stig parle à son frère qui, lui, se transforme en loup. Enfin, c'est son pouvoir. Et puis qui dit à son frère, c'est pas parce que notre père se transforme en ours, qu'il est brut et violent. Mais bien sûr que si, en fait. Et je crois que c'est justement utiliser ces symboles-là, c'est ce qui permet de renforcer un monde, et du coup de renforcer, je crois, toute la puissance romanesque en y apportant, nous tous, notre propre patte et notre propre interprétation.
Aurélie ?
Ah oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Après, c'est vrai qu'on... pour le Roi des Fauves, je parle souvent de vernis, en fait, mythologique, parce que derrière, c'est très repris... à notre sauce. Et ce que vous disiez aussi, c'est là on parle de bouquins, mais la mythologie nordique, ça irrigue aussi très largement même la pop culture. On voit avec les Marvel, et je pensais, en vous écoutant aussi aux jeux vidéo, c'est vrai que le dernier God of War, ils sont passés à la mythologie nordique, et avec le dernier volet, et puis c'est passionnant, et il y a plein de figures qui apparaissent de la mythologie nordique dans les jeux vidéo, comme dans les Final Fantasy, où on voit Sleipnir parmi les invocations et tout ça, et vraiment c'est quelque chose qui irrigue notre culture au présent, c'est fondamentaux, et qui les enrichissent et qui leur donne un cachet et un vernis incroyable.
Et du coup, moi, ce que je trouve très drôle, c'est vous parliez tout à l'heure de Snorri et de tous ces prêtres qui effectivement ont, de tous ces moines pardon qui ont écrit un prêtre, donc qui ont écrit la mythologie. Et ce que je trouve très drôle, c'est qu'au final, à notre niveau à nous, on fait un peu la même chose, c'est qu'on écrit les choses. Alors certes, on y rajoute aussi beaucoup notre imaginaire, mais au final, on écrit aussi ce qui nous touche. Et eux, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est voulu sauvegarder ça, mais ils l'ont forcément interprété, parce que c'était des contes qui étaient forcément oraux, qui avaient été racontés des milliers de fois, et du coup, eux l'ont reçu d'une certaine manière, et du coup, l'ont retranscrit d'une certaine manière. Et je trouve qu'il y a une sorte de passage de témoin, qui est, une fois de plus, nous, on n'est pas du tout historiens, mais en faisant vivre cette mythologie, on l'a fait aussi se transformer. Je suis convaincu, enfin c'est ce que j'ai lu en tout cas, que eux aussi forcément l'ont transformé.
Oui, mais en fait, c'est encore pire, parce qu'ils l'ont transformé avec leur culture, qui était religieusement une culture chrétienne et littérairement une culture gréco-latine. Donc ils ont appris, pour lire la Bible, on a besoin d'apprendre le latin, même en Islande, et on apprend le latin dans Ovide et dans Virgile. Et à ce moment-là, lorsqu'ils relisent leurs anciens mythes, ils essayent de trouver des comparaisons avec des choses qui sont vraiment sérieuses, pas, pas ce que racontait la grand-mère gâteuse au coin du feu. Et donc, ils essayent de faire des passerelles, en fait, avec les mythes grecs ou des choses comme ça. Alors, il y a des fois où ça peut fonctionner, puisque c'est le même monde indo-européen, mais en général, ça ne marche pas, et on fait des rapprochements un peu tendancieux, et qui finissent par brouiller complètement les cartes.
Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition, enfin, tout le moins la vision de Thorgal qu'avait Laurent, quelqu'un qui n'est absolument pas religieux, même si... Il s'y confronte un petit peu, quelqu'un qui est libre profondément.
Ah oui, je pense que la religion, c'est la malédiction, tout simplement. Mais il se bat, et c'est un réflexe de ce que nous, c'est notre avis, notre opinion, le scénariste et la mienne, à ce sujet-là. Mais sinon, on est maximum anti-religieux. Donc j'essaie de considérer tout ça comme des choses indispensables pour la bonne histoire. Il y a toujours les méchants. Parfois les méchants, parfois les dieux sont méchants, parfois ils sont notre associés et associés de nos personnages. Pour que nos comédiens virtuels inventent mon casting moi-même. Il n'y a aucun acteur connu parce qu'ils sont trop chers pour moi. Les engager, donc les invente. Et là, bonne histoire, c'est toujours comme Chris de Valnor, par exemple. C'est Milady de Winter, c'est comme les archétypes des Et ça vient de là, c'est que Jean a expliqué ça. Mais c'est pour il faut toujours les bons méchants. Et les méchants et les dieux sont à la fois bons et méchants. Donc ils sont absolument indispensables. Mais on sait que ça se passe dans le monde imaginaire, dans le monde qui n'est pas réel. Il ne faut pas croire, ne croyez surtout pas de ce que je dessine. Mais vous pouvez croire dans mes dessins, mais pas dans ce qu'ils représentent. Tout c'est, vous ne trouvez aucun village comme je dessinais. Les vêtements sont n'importe lesquels. C'est important qu'ils soient chauds. Et bon, il y a tous les éléments de bonne histoire dedans. Mais c'est l'ambiance des décors des nordiques, c'est seulement un prétexte pour travailler librement entre deux régimes communistes et capitalistes à l'époque. Et après, on a habité. C'est ce qui est bizarre aussi, on était dans certains sorts, qu'aucun de l'auteur de bande dessinée ici ne pense même pas de ces problèmes, et comment et d'être de à certaines valeurs. On pense toujours à ce qui marche dans la BD. Et pour nous, c'était important, ce qui n'est pas se plaire, mais tout simplement dessiner. C'est pas. En évitant tous ces thèmes. Qui pouvait gêner quelqu'un, on est resté uniquement avec les émotions humaines. C'est l'amour, c'est la jalousie, la tromperie, la haine, de tout ce qui est dans la famille, la responsabilité sur les enfants, etc. Ça sont très droites, j'ai dit, la famille surtout. Mais c'est ça qui ne pouvait pas être. Ça n'avait pas gêné personne. Et là, c'est. Je m'éloigne un peu de. Ou pas, je ne sais pas, finalement. Je me perds seulement.
Non, mais on est pas mal.
Le problème est d'exprimer en français ce que je pense. Et je ne sais pas. Je perds un peu le fil de.
Non, on a bien compris la liberté derrière.
Donc, il a différentes. Je pense qu'il y a différentes visions de différents auteurs. Il y a certains qui veulent recréer cette cet univers comme il était, d'après les documentations, d'être très fidèle, de ça. Là, avec l'appui des historiens qui sont très intelligents et qui savent tout. Il n'y a aucune ironie, moi je suis plein d'admiration pour les gens qui sont... Parce que moi je n'ai pas de patience pour fouiller dans ça, mais ça m'attire aussi, je suis très... Et très, 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 très aussi. J'adore la documentation. Mais n'est pas pour prouver que ce que je dessine, c'est la vérité. N'est pas reconstruction de l'histoire. Mais il y a d'autres qui sont. Et qui utilisent ça uniquement comme. Pour faire une bonne histoire, mais ils cherchent le décor. Comme le théâtre. Moi, c'est plus proche du théâtre que du cinéma, même. Mm. Mais je me concentre sur les comédiens, sur les acteurs qui jouent là. Et toute la reste, ça peut se passer comme jouer Hamlet avec les cravates et les vêtements. C'est question de l'histoire d'abord. Donc, il a... Mais moi, je te... Bon. Désolé, mais je suis un peu perdu dans tout ça parce que je...
Pas de... Non, mais pas de souci, c'est très intéressant. Au contraire, cette perspective-là...
Chacun a sa propre vie, façon de... C'est un laboratoire. Chacun a sa façon de travailler. Et chacun a son approche individuelle pour la façon dans laquelle il veut raconter l'histoire. Et qu'est-ce qu'il veut raconter et quels moyens utiliser pour que ça marche le mieux.